I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Chut, attention, vous êtes sur écoute.
À la tête d'une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, Randindi est un innovateur qui compte, comme on dit. Pour le podcast Off, Émilie Vidot l'a longuement interrogé sur son parcours et ses ambitions. Pour Binge Actu, nous vous proposons d'écouter un extrait de cet entretien, le moment où Randindi aborde l'impact de l'intelligence artificielle sur la vie privée et la gestion de nos données personnelles. C'est très instructif.
La vie privée, c'est quelque chose qui est très important, surtout aujourd'hui, parce que quand on y pense, dans les années 90, à l'époque où les GAFA ont été créés, finalement, les questions de vie privée étaient relativement minimes. C'est-à-dire que nos données personnelles, ça représentait que ce qu'on faisait sur Internet majoritairement. On se connectait à Internet, on faisait quelque chose, puis on se déconnectait, mais la majorité de notre vie n'était pas connectée. Elle était totalement offline. Et donc, il n'y avait pas de données qui étaient récoltées sur notre vie la majorité du temps. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à connecter notre environnement, que tout autour de nous est devenu digitalisé, eh bien, notre vie a été de plus en plus traquée. Et donc, il y a une relation directe entre la numérisation et la digitalisation du monde et l'impact potentiel de la mauvaise utilisation de nos données personnelles sur notre vie. Donc, c'était évident qu'au bout d'un moment, il y allait y avoir un point d'inflexion. Ce qui n'était pas grave dans les années 90, et les business models qui ont été développés, étaient développés à des moments où c'était pas grave. Aujourd'hui, ne peuvent plus marcher. Je suis convaincu qu'à partir de maintenant, on a véritablement atteint ce point d'inflexion où les entreprises qui dépendent de la monétisation de données personnelles n'auront aucune chance de survivre sur le long terme. Les GAFA peut-être ont encore une chance parce qu'ils ont quand même créé des services utiles, mais une nouvelle entreprise qui voudrait se lancer avec comme business model l'exploitation et la monétisation des données personnelles est vouée à l'échec. C'est une garantie. Le problème principal qu'il y avait aujourd'hui, c'était la manière dont les humains et la technologie interagissent. Quand on y pense, la technologie nous nécessite depuis 50 ans que les humains qui veulent s'en servir apprennent à s'en servir. Et donc le résultat, c'est que plus on veut utiliser la technologie, plus en fait on a cette sensation de saturation parce que notre cerveau doit se rappeler de comment toutes ces machines fonctionnent et doivent interagir en continu avec toutes ces différentes machines. Ça, je m'en suis aperçu de manière extrêmement flagrante quand j'étais dans la jungle au Costa Rica, parce que dans la jungle, là-bas, on est totalement déconnecté. Et donc, le contraste entre revenir à l'hôtel et être dans la jungle était tellement énorme que ça n'a fait qu'accentuer finalement cette sensation qu'on a au jour le jour, mais à laquelle on s'est un petit peu habitué de manière mauvaise. On s'y est habitué non pas parce que c'est facile à utiliser, on s'y est habitué parce qu'en fait, notre cerveau a juste laissé tomber. Donc à ce moment-là, on s'est dit avec mes associés, c'est ça le problème qu'on veut résoudre. On veut, à travers l'intelligence artificielle, rendre l'interaction entre les humains et les machines tellement simple, tellement sans effort, qu'on en finit par oublier qu'on utilise la technologie. Et donc c'est là qu'on a défini un petit peu notre vision pour la boîte, qui est cette idée que l'intelligence artificielle peut nous permettre de faire disparaître la technologie de notre conscience.
Alors, comment est-ce que vous allez faire disparaître cette technologie? Donc comment vous êtes peut-être déjà en train de la faire disparaître?
Donc, pour faire disparaître la technologie, tout est une question finalement de le rendre aussi simple à utiliser que l'électricité. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus de technologie, on est en train de dire que la technologie ne doit pas être quelque chose qui nécessite un effort pour être utilisé. Et donc, une des pistes principales sur lesquelles on travaille sont les assistants vocaux. Le fait de pouvoir parler finalement avec des machines, comme on parlerait avec des humains, enlève le besoin d'apprendre comment se servir de ces machines. De la même façon qu'on peut parler avec des gens autour de nous sans avoir besoin de leur donner un mode d'emploi pour nous comprendre, on devrait être capable de faire pareil avec des machines. Et donc le fait de pouvoir demander ce qu'on veut plutôt que d'apprendre à faire ce qu'on veut, ben finalement, ça enlève ce côté compliqué, difficile de la technologie qui nous demande tellement d'attention en permanence. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui chez Snip, c'est qu'on développe des technologies qui permettent aux humains de parler avec des machines et qui permettent du coup aux entreprises d'intégrer ces assistants vocaux dans leurs propres produits pour que les gens puissent s'en servir sans jamais se poser la question de comment ils fonctionnent.
Vous pouvez écouter l'intégralité de cet entretien dans notre podcast en off, à retrouver sur toutes vos applications habituelles.
Binge audio.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.